En fait, on va mettre les pieds sur terre, encore que finalement le soutien, un des soutiens institutionnels que nous avons sur les matériaux granulaires, en particulier à cause des problèmes de dunes, viennent de la NASA. Un petit peu tous ces problèmes, d'ailleurs vous avez vu effectivement ces comparaisons de ces sols martiens et terriens, qui ne prouvent pas nécessairement d'ailleurs qu'il y a eu de l'eau. Alors, alors que Bernadette a parlé ce matin de 4M, moi je ne parle que de 3, peut-être qu'on pourrait jouer là-dessus. La grande différence entre ce superbe exposé de Bernadette, qui n'est pas là, qui est parti peut-être, et puis le mien, c'est qu'elle considère qu'effectivement, à chaque degré d'intégration, on a affaire à des structures différentes, tandis que moi je montrerai qu'on a besoin de descriptions multi-échelles, alors même qu'il n'y a pas une telle multiplicité de choses qui se produisent. On a en gros des grains quelque part, et puis de l'autre côté, on a un tas. Et les échelles intermédiaires, c'est la façon dont on va décrire le passage de l'un à l'autre. Alors, numéro 1, puisqu'en fait, ici, on nous parle multidomaine, multi-échelle, pluri-théorique. Effectivement, toutes ces caractéristiques, on les a dans les matériaux granulaires. D'abord, il faut voir que de très longtemps, ce n'est pas comme l'exobiologie, on en reparle depuis très très longtemps, et qu'on voit qu'il y a énormément de communautés qui se sont intéressées, souvent isolément, à ces sujets. On peut recommencer donc par l'astrophysique. On avait affaire à toute une science de grains dans l'exposé précédent, la chimie, les colloïdes, l'industrie alimentaire, évidemment chacun d'entre nous, les géosciences, les géoprocédés, l'ingénierie militaire, les poudres. On fait de très très belles études sur les problèmes d'empilement, les matériaux et le génie civil. Je voudrais juste montrer un exemple qui va effectivement souligner l'importance économique considérable de la recherche sur les matériaux granulaires. C'est tout ce qui va concerner les matériaux de construction. Juste un petit clin d'œil à l'histoire. Vous partez dans les matériaux de construction de la brique antique, qui est effectivement un agglomérat des argiles, effectivement, qui vont se souder, qui vont faire cru ou cuit, et qui effectivement est une science ancienne, mais qu'on revisite actuellement beaucoup. En particulier, il y a un laboratoire qui s'appelle Archéotère à Grenoble, qui essaye de regarder cette construction, puisqu'il y a 1 milliard d'habitants sur Terre qui vivent dans des habitats de terre, évidemment avec des choses en plus. On passe une étape rapide au Panthéon de Rome, une voûte de 40 mètres de diamètre en béton. D'ailleurs, la construction de béton a été oubliée pendant 19 siècles. Et puis, tout d'un coup, on redécouvre des bétons nouveaux et qui demandent des multi-échelles. Voilà un pont, une passerelle à Séoul. En fait, il a fallu la rendre plus épaisse artificiellement parce qu'elle n'a que quelques centimètres d'épaisseur. Elle est souple, c'est ce qu'on appelle les bétons à haute performance. Je ne dis pas qu'on a les performances de l'acier, mais on a une performance au point de vue résistance à la compression qui peut être de l'ordre de 10 fois plus grande qu'un béton ordinaire que vous achetez chez Lafarge. Et c'est les performances de ces matériaux nouveaux qu'on va retrouver à Millau, qu'on va retrouver à l'Arche de la Défense, c'est le multi-échelle. Voilà un peu une coupe de ces matériaux, c'est pas pour vous faire comprendre, il y a des très gros grains, des plus petits grains, etc., jusqu'à des poussières fines, qu'on appelle des fines de silice, et qui effectivement vont aider à la fois à diminuer la porosité, à le rendre plus dur, à créer des liaisons chimiques, donc dans ce sens-là. C'est dommage qu'elle soit partie, Bernadette. C'est à elle que je voulais dédier cet exposé. C'est une personne que j'estime énormément, tant pis pour elle. Voilà. Et là-dedans, donc, vous avez une multiplicité d'approches scientifiques, de communautés scientifiques, et il y a quand même un élément nouveau. C'est un peu comme Zorro est arrivé, ça a été les physiciens statisticiens. Je pense que nous avons créé une communauté il y a quelque chose comme 25 ans, quand je dis nous, ça a été beaucoup autour de Pierre Gilles, j'y ai participé, et dans lequel l'approche à la Degen, je dirais, c'était de dire qu'on a fait beaucoup pour le désordre à une échelle microscopique. On connaît, il y a des exceptions, les vers restent toujours mal compris. On a par contre beaucoup moins d'idées sur un désordre à une échelle un peu plus grande. Et dans cette communauté que j'avais baptisée à ce moment-là MIAM, les milieux aléatoires macroscopiques, l'idée était d'utiliser ce que nous comprenions de la physique statistique des liquides, par exemple, ou effectivement des systèmes désordonnés au niveau microscopique, la dynamique moléculaire, par exemple, pour comprendre comment s'organisait le désordre à des échelles plus élevées. Et c'est ce faisant que nous sommes arrivés à finalement mieux comprendre effectivement un certain nombre de caractéristiques et surtout d'arriver à faire que ces différentes approches scientifiques des matériaux granulaires rentrent dans un cadre unique. Je schématise un petit peu, il y aura des spécificités de chaque problème, mais il y a un cadre unique. Donc beaucoup de choses ont été faites. Je mets en avant, parce que j'ai un ancien responsable du Palais de la Découverte qui me fait l'honneur de venir ici, Jean, c'est que finalement c'est un sujet qui se prête extrêmement bien à la communication au grand public, en particulier vis-à-vis des jeunes. On a tous fait des constructions, on a tous fait des châteaux de sable. Moi, j'ai un plaisir immense à faire ce genre d'enseignement avec des jeunes. J'y ai fait des cours à la main, à la patte, et c'est vraiment un cas, parce qu'on a à la fois une physique très ancienne, des matériaux très simples, et puis en même temps, excuse-moi, je dis un ancien, mais un présent, Guy, je te prie de m'excuser, je pensais à toi, mais je n'ai donné qu'un seul nom. Voilà, Bernadette, tu reviens, je voulais dire que j'avais envie de te dédier cet exposé, parce que je trouve que ton approche scientifique que tu mènes actuellement et que tu mènes depuis pas mal d'années sur la compréhension du désordre de la matière me semble extrêmement enrichissante pour des scientifiques comme nous. Voilà, Guy Simonin, je te prie de m'excuser, je voulais vous dire vos deux noms et puis j'ai oublié de mettre. Mais enfin, c'est clair que le Palais de la Découverte, par exemple, les centres de culture scientifique peuvent énormément s'instruire en regardant les travaux actuels sur ces sujets et en même temps en les posant à des enfants. Je me suis retrouvé dans une école primaire où j'aime aller et je me suis fait engueuler par les gamins parce que je n'étais pas capable de leur expliquer comment fonctionnait un sable mouvant. Et c'est vrai, et j'avais eu du mal et je n'avais pas fait comme si je pouvais. Et c'était il y a 2 ans, j'ai fait un petit article pour la science au mois de décembre, parce qu'on ne travaille pas tout seul, on travaille en équipe, et je crois qu'on comprend un tout petit peu mieux, mais vous voyez, il y a encore beaucoup de problèmes ouverts. Alors, cette physique, elle part du tas de sable, et comme archétype de ce tas de sable, on va mettre comme système modèle de départ, on va prendre des billes dures, indéformables, toutes de même diamètre, vous voyez le système le plus simple, mais néanmoins qui reste un système essentiellement désordonné. Et on va voir comment il se construit, pourquoi on a besoin de ces échelles multiples, qui est bien l'esprit de ce colloque. Alors, d'abord le modèle, il est simplissime, néanmoins il contient déjà beaucoup de désordre, puisqu'on est dans un système désordonné. Il contient un désordre de position. La nature à 3 dimensions n'est pas gentille avec nous, elle réalise naturellement, quand on met des sphères de même diamètre, du désordre. Je pourrais vous l'expliquer, c'est un sujet un peu long, mais en gros, elle préférerait à 3 dimensions la symétrie d'ordre 5 que la symétrie d'ordre 6, et cette symétrie d'ordre 5 est incompatible avec une nature cristalline. Ben, si, Jean, tu prends une sphère, tu mets la structure la plus probable pour mettre 12 sphères autour, c'est l'icosaèdre. Et l'icosaèdre, c'est une symétrie d'ordre 5 et ça ne permet pas la cristallisation. Il y a un désordre de contact, même si vous rangez très bien vos billes, les contacts sont inégaux. Il y a un fameux effet qu'on appelle effet Branly, qu'on commence à peine un peu à comprendre, qui est le rétablissement d'une chaîne conductrice dans un matériau conducteur, qui est dû au fait que les contacts sont faibles et qu'il faut quelque chose pour activer ces contacts. Évidemment, en plus de ça, si on sollicite ces grains, ils vont leur arriver un tas de choses, ils vont se déformer. Et puis, évidemment, on a finalement un désordre de composition. On a commencé à s'intéresser j'ai commencé à m'intéresser avec une équipe à Marseille à ces empilements parce qu'on voulait modéliser ce qu'on appelle la percolation, c'est-à-dire le fait que si je mets des grains conducteurs isolants de même forme, de même nature, mais simplement des grains conducteurs, c'est une petite pellicule conductrice, eh bien, s'il n'y a pas assez de grains conducteurs, c'est un isolant. Si on met assez de grains conducteurs, il peut devenir conducteur. Et puis, en fait, finalement, la nature, elle fait que les grains, en plus de ça, ils ne sont pas du tout des sphères. Ils sont, et en fait, des natures de sable différents, il y en a 36 000. Il y a un superbe lycée, une école qui s'est construite à Château-d'Olonne, qui est le lycée du sable, un professeur assez remarquable, Daniel, a dit, bon, on va mettre le lycée autour du sable, des problèmes récupérés des sables, les analyser. Une expérience formidable. D'ailleurs, ça va conduire à la construction d'un musée du sable. Je trouve que c'est une très belle démarche. Les grains, en plus de ça, ils n'ont pas du tout la même taille. Vous pouvez partir, et quand on dit taille différente, ça veut dire interaction locale différente. Dans les petits grains colloïdaux, vous allez avoir des interactions qui vont être des interactions chimiques fortes et des effets browniens. Les argiles, les limons, vous allez avoir des effets cohésifs. On a parlé d'argile de ton laboratoire, si je comprends bien. Exoplanétaires. Les poudres, ils vont avoir des effets éoliens. La poudre de riz, me mettait ma maman, c'était des petits grains suffisamment petits pour que finalement, quand on les pose, l'air, le mouvement de l'air en réaction était important. Et moi, je ne parlerai que du sable fin, c'est-à-dire celui qu'on va retrouver dans les zones désertiques. Et ces caractéristiques, je vais revenir, il y en a beaucoup de grains, mais il y en a quand même beaucoup moins que dans les molécules d'un gaz. Les particules, on peut les distinguer, ça, une physique statistique classique. Et puis, elles ont différents états. Est-ce que c'est un solide, un liquide, un gaz? Est-ce que, je crois qu'il vaut mieux le définir comme un état différent de la matière? Une chose qui va être surtout, les fluctuations thermiques sont négligeables, l'agitation thermique est petite, tout à fait négligeable. En plus de ça, chose importante, les chocs, à différence d'un gaz, sont inélastiques. Le coefficient de restitution de l'énergie peut être de 90% dans une bille d'acier. Évidemment, si on mettait des billes de plomb, c'est quelques pourcentages. Et en fait, une des caractéristiques, c'est que finalement, il y a une friction entre les grains, une friction qui résiste à la fois aux effets de cisaillement, aux effets de déformation. Donc, il y a toute une mécanique qui est une mécanique importante et qui rentre dans cette description. Alors, revenons au thème de la conférence. Ce qui va caractériser les approches de ces systèmes désordonnés, c'est au départ, c'était micro-macro. Et je vais montrer que c'est insuffisant. On voit deux exemples de systèmes micro-macro. La fameuse loi de Darcy, qui est la loi de conductivité hydraulique dans un milieu poreux. Au niveau microscopique, vous avez un liquide qui passe dans un canal. Ça, c'est une loi dissipative, c'est ce qu'on appelle la loi de Poiseuil, même si c'est des canaux différents. Au niveau macroscopique, la loi de Darcy, c'est la loi de la conductivité électrique. C'est une loi potentielle. Donc, vous voyez, le fait d'être passé d'une loi locale à une loi macroscopique, on est passé d'un problème non conservatif, dissipatif, un problème qui est un problème conservatif. Il l'est parce qu'on ne parle pas du débit dans chaque canal, on parle d'un débit moyen. Donc, on a l'intégration d'échelle a changé la nature du programme. Un autre, c'est typiquement l'angle maximum de glissement d'un solide sur un plan. C'est le problème dit de Coulomb, mais en fait, qui avait déjà été examiné par Léonard de Vinci, puis à Montons un siècle plus tard. C'est au niveau macroscopique, c'est qu'il y a un angle maximum où ça va commencer à glisser. Au niveau microscopique, par contre, on comprend depuis Tabor, il y a moins de 50 ans, que pour comprendre les caractéristiques décrites par Léonard de Vinci, il faut vraiment voir que le contact, c'est un contact entre points, il y a une déformation plastique au niveau du contact, et c'est cette déformation plastique locale qui permet de comprendre l'angle macroscopique. Donc, vous voyez, le passage d'une loi du phénomène macro, micro, micro, macro, comme vous voulez, va complètement changer la nature du problème. Il y a l'équivalent pour les milieux granulaires, qu'on appelle la loi de Janssen, qui va expliquer une expérience que j'avais reproduite dans un film que j'avais fait avec Alexis Martinet, qui est en fait dû à Jacques Durand. Vous prenez une balance, une manip qu'on a dans notre exposition itinérante sur les granulaires, vous prenez un tube que vous allez charger en grains, vous débrouillez pour peser, non pas le tube étant tenu, vous débrouillez pour peser le poids des grains qui pèsent là-dessus. Alors si vous mettez un peu de grains, vous voyez, la balance va commencer à dévier, et puis vous mettez un certain nombre de grains, la balance ne dévie plus du tout. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez beau rajouter des kilos de grains par-dessus, la balance n'accusera pas, n'augmentera pas son poids. En fait, pourquoi elle n'accuse pas? C'est parce qu'en gros, il y a eu des voûtes, les grains ont redistribué le poids sur les côtés latéraux, et comme on ne pèse pas dans la balance, on ne pèse pas le cylindre, mais on pèse ce qu'il y a à l'intérieur du cylindre, eh bien, le poids vers le bas est différent. Donc, on s'aperçoit que ici, on a des problèmes. Il ne suffit pas de caractériser ce qui se fait au niveau d'un grain, il faut comprendre l'ensemble. Alors, le modèle de Janssen, j'avais écrit des équations, mais que je ne veux pas vous donner, mais l'idée essentielle, c'est comme dans les problèmes de l'atmosphère exponentielle, vous regardez, vous avez un tube, vous regardez ce qui se passe entre deux couches là, la différence du poids, c'est la différence, c'est le poids de cette couche, donc ça fait une différence de pression, mais la pression est renvoyée sur les côtés, et comme elle est renvoyée sur les côtés, ça crée une friction. Alors, si on calcule la friction sur latérale, la différence de poids, on peut arriver à montrer, comme dans l'atmosphère exponentielle en gaz, qu'on a affaire à la charge au fond augmentera d'abord linéairement, et puis elle saturera, et puis elle augmentera plus du tout, puisque de façon continue, c'est réparti sur les bords. Problème de concours d'entrée à Polytechnique il y a 2 ans, il y a 3 ans. Voilà. Pour vous dire qu'effectivement, même si c'est des vieux sujets, Janssen, c'est 1895, on peut le comprendre. Alors, comme je vous l'ai dit, au niveau macro, il y a la loi de Janssen, au niveau de micro, on a le fait que des grains qui pressent l'un contre l'autre, effectivement, vont se déformer. Ça, c'est le sujet de la thèse de Hertz, que vous connaissez pour d'autres sciences. C'est un calcul un peu délicat, dans lequel on montre que la force n'est pas proportionnelle au déplacement. Ce n'est pas Young, hein, c'est pas la force proportionnelle aux déformations. Ut tensio sic vis, disait Robert Hooke, c'est que la force est proportionnelle au déplacement à la puissance 3,5. En gros, parce que quand vous enfoncez, vous augmentez la surface de contact, donc vous modifiez la géométrie. Alors, il y a les grains humides, c'est aussi un autre problème. On a tous fait des châteaux de sable et on sait l'intérêt qu'il y a à avoir un sable qui est un peu humide, mais pas trop. Là encore, je ne vous ferai pas le calcul, mais pour vous montrer que c'est de la science moderne, voilà la couverture de Nature 1995. Hein, donc, le château de sable est un sujet actuel de cette revue que l'on comprend. D'ailleurs, beaucoup de choses sont intéressantes sur ces interactions locales. Alors, je ne sais pas, je me demandais par rapport à Bernadette si j'allais décrire nano, que c'était ce qui se passait au niveau d'un contact entre deux grains, puis qu'après micro, c'était... Enfin, je trouve que je n'ai pas envie trop de prolonger. 3 échelles, me semble, pour mon problème, suffisant. Donc, on a une inscription macro, la loi de Janssen, comme je vous disais, qui est un peu l'équivalent de l'atmosphère exponentielle, les lois des descriptions micro-mécaniques, et par contre, on va voir qu'on n'arrive pas à décrire. Alors, je vous redonne encore l'effet de voûte sous une autre forme. Je pense que vous avez tous observé que quand vous avez un sablier, à la différence du clepsydre, de l'horloge à eau, le débit de sable d'un sablier est constant pratiquement jusqu'au moment où il ne reste plus de sable dans le compartiment supérieur. Sablier est un système qui débite à un débit constant. Alors que pour l'eau, vous avez la pression hydrostatique. Ici, vous n'avez la pression hydrostatique ne joue pas parce que essentiellement, ça suit l'expérience de photoélasticité où on voit les lignes jaunes, c'est là où les forces s'appliquent. En gros, peu de forces s'appliquent directement sur l'orifice, ça c'est un modèle expérimental, mais c'est quand même une expérience modèle. La plupart des forces sont redistribuées sur le côté, donc ce n'est pas surprenant que la charge qu'on a au-dessus ne compte pas. Ce qui va compter, c'est finalement peut-être ici, être à la fin. Donc on voit qu'on ne peut pas faire de l'hydraulique là-dessus. Voilà encore une simulation numérique, celle-ci. On la voit mal. Ici, ce seraient des petits bouts de cylindres. Ça serait, quand j'ai ma ferme au Jura l'hiver, mes petits-enfants, qui sont des fois paresseux, en tout cas qui ne sont pas grands, aiment bien tirer le bois, non pas en haut du tas, mais à l'endroit où ils savent qu'ils peuvent le tirer sans abîmer le tas. Donc, c'est parce qu'en gros, la charge, au lieu d'être distribuée sur tous les logs, sur tous les morceaux de bois, elle est distribuée sur des structures et les grains ou les bois intermédiaires, eux, ne supportent aucun poids. Donc c'est un sujet qui a l'air tout à fait simple. Il est assez compliqué. La loi de distribution des forces, à la fois, doit tenir compte des problèmes de flambement. C'est-à-dire, vous voyez, quand vous avez tassé le bois, le tas, dans son ensemble, a tendance à se déformer. Mais les grains qui sont peu comprimés, eux-mêmes vont empêcher que ce flambement se produise. Donc, on en fait des distributions multifractales, on fait une analyse théorique importante. Mais quand même, la morale de ça, c'est que vous ne pouvez pas utiliser la loi de Hertz, qui nous décrit la relation de force-déformation entre deux grains, pour calculer la loi de force des formations de beaucoup de grains. Parce que si vous prenez deux grains ici, ou deux grains rouges, qui sont des grains comprimés, ce n'est pas du tout la même loi. Donc, la loi de Mouchier-Echelle, si vous deviez retenir une chose, en fait, vous savez que dans un séminaire, on retient très peu de choses. Donc, si vous deviez retenir une seule chose de ces 40 minutes, retenez l'idée que ces chaînes de force font qu'on ne peut pas aller directement d'une approche microscopique, c'est-à-dire la force des formations entre deux grains, à une approche macroscopique, c'est-à-dire la force des formations d'un ensemble de grains. Il faut tenir compte des échelles que j'appellerais méso, c'est-à-dire de la distribution de ces échelles intermédiaires. Vous voyez que ce point de vue-là, c'est assez différent de ce que Bernadette nous a expliqué. Mais quand même, la philosophie générale, je crois qu'on y est. Hein, parce qu'on peut aussi travailler dans ces systèmes avec des systèmes plus hétérogènes. Donc voilà, deux cylindres individuels. Pour résumer, j'ai porté le déplacement à puissance 2 tiers. Donc, la loi de Hertz, c'est linéaire en fonction de 2 tiers, en fonction de la déformation. Évidemment, si je sépare, c'est comme une diode, si je sépare les deux cylindres, il n'y a aucune force. Hein. Le paquet de café sous vide, il n'a de cohésion que parce qu'il est maintenu sous pression. Je le perce, il perd sa cohésion. Hein. C'est la grande invention, la gigantesque invention du béton précontraint. Donc, dans les années 1920. Ici, par contre, si je porte le déplacement macroscopique toujours à puissance 2 tiers, pour comparer avec en haut, en fonction de la compression, vous voyez que la loi n'est plus du tout linéaire à la puissance 2 tiers. Ça veut dire que plus vous allez comprimer ce système de beaucoup de grains, plus vous allez créer des contacts entre les grains, plus les chaînes de force vont être importantes, effet du rouleau compresseur qu'on passe sur une chaussée qu'on vient de faire, donc plus ils vont être tendus, donc plus le matériau va durcir. Le matériau durcit au fur et à mesure qu'on le comprime. Voilà, je crois que c'est ça. Alors, je vais vous parler d'autre chose. Tu me dis combien? 10 minutes? 15 minutes? 15 minutes, c'est parfait. Alors, un petit intermède, la dilatance, pour aller sur la plage, j'anticipe. La dilatance, c'est un effet découvert par Reynolds, dont on connaît le nom par le nombre de Reynolds, que vous on voit sur le sable mouillé. Hein. Vous mettez votre pied là-dessus et contrairement à une éponge qui devrait effectivement exsuder de l'eau à l'extérieur, ici, en fait, ce que vous faites, c'est que vous asséchez l'eau autour du pied. Vous asséchez l'eau essentiellement parce que un milieu granulaire est un milieu tassé et puis que quand vous avez mis le pied dessus, vous avez déformé. En déformant, vous avez diminué la compacité, c'est-à-dire augmenté la porosité. D'ailleurs, ceci étant un petit point de terminologie qui n'en est pas. Ça m'énerve pas, parce que je ne m'énerve pas. Mais toutes les fois où on parle, comme dans l'exposé précédent, il n'a pas écouté, ça ne fait rien, de porosité, il veut dire perméabilité. Parce que la porosité peut être fermée ou ouverte, n'est-ce pas, collègue? Bon, ça ne fait rien. On a... Si, vous avez... Non, je veux dire, essayons de distinguer porosité et perméabilité. Le problème que nous considérons ici, c'est augmenter la porosité, c'est parce qu'on augmente la porosité, on augmente la perméabilité. Mais ce n'est pas nécessaire. Si la porosité est fermée, ça ne marche pas. Alors, cet intermédiaire dilatant, si vous voulez, ce petit modèle simple qui montre que quand on a cisaillé un empilement, on le rend moins compact, donc on aspire, on avale de l'eau, sous le pied, ça devient humide, est quelque chose pour comprendre que pour que des grains se déplacent, souvent, pour qu'il y ait un mouvement de grains d'ensemble, il va falloir faire dilater, c'est ça la dilatance, les grains. Alors voilà le cas de l'avalanche. J'aime bien montrer ça parce que c'est moi qui avais mis en place ce projet avec un de mes amis, Jean-Bernard Mettet, qui est un artiste. On a installé ça dans le Jardin des Plantes. C'est une structure, c'est un sablier qui faisait 10 mètres de haut par 10 mètres par 10 mètres. Et avec des miroirs, on pouvait faire couler l'eau. Mais le point important pour moi aujourd'hui, c'est de voir que cette avalanche, qui est le cône inférieur de mon sablier, il a comme caractéristique essentiellement que l'angle, l'écoulement dans le récipient inférieur n'est pas plan comme avec de l'eau, mais évidemment forme un cône et qu'il y a un angle limite. Et ça, c'est directement le travail qui est le travail de... de Charles-Augustin, je ne retrouvais plus son nom, Charles-Augustin Coulomb, qui était ingénieur des fortifications, donc il devait faire effectivement le même Coulomb, évidemment, de l'électrostatique, qui devait effectivement faire des buts. Il fallait voir jusqu'à quel angle on pouvait faire des buts. Alors, l'avalanche, lui aussi, je vais prendre un cas dans lequel les descriptions méso ne sont pas assez avancées. C'est des sujets très simples, mais qui sont encore en devenir. Approche macroscopique d'une avalanche. Finalement, assez simple. Il y a deux équipes avec deux grands noms, Edwards à Cambridge et Degen en France, qui va décrire une avalanche de la façon suivante. Il va dire, dans une avalanche, je peux peut-être prendre une petite image qui montre ça. Dans une avalanche, ça c'est une avalanche de grains de café. Vous avez entre deux plans, vous avez incliné des grains, vous avez incliné des grains, vous avez tourné les planches jusqu'au moment où ça va couler. Donc là, ça ne coule pas. Et puis si vous augmentez les grains, vont pouvoir, c'est entre deux plaques, c'est un modèle bidimensionnel, mais c'est des vraies expériences, vous voyez que si on augmente, les grains vont couler, mais seule une couche superficielle va couler et les autres vont rester fixes. Donc l'approche de ces expériences, ça c'était publié dans Nature, vous voyez qu'on peut publier dans Nature simplement avec des grains de café, et c'est qu'il y a une couche qui bouge et une couche qui est fixe. La couche qui bouge, fluide, va échanger les particules avec la couche qui est fixe, et réciproquement, et en utilisant finalement une description avec deux phases, une phase de grain qui roule et une phase de grain fixe, et des termes d'échange entre ces deux phases, vous pouvez effectivement prévoir, par exemple, faites un écoulement de sable sur un plan incliné, et puis ici vous mettez une butée en bas, donc le sable qui arrive va remplir la butée, va remonter, donc on va voir remonter, comme aussi avec le coup de pelle que l'on fait dans un tas de sable vers le bas, qui fait remonter comme une vague, comme une onde vers le haut. Tous ces modèles macroscopiques décrivent ces choses-là. On peut aussi vouloir décrire, évidemment, au niveau tout à fait analytique, faire une avalanche avec un seul grain. Ici, c'est un grain qu'on a placé sur un papier qui lui-même, sur lequel on avait collé des grains. Donc le grain unique va évidemment pas aller en ligne droite, parce qu'il a des collisions, il va pouvoir se disperser latéralement et longitudinalement. On peut vouloir aussi faire des expériences intermédiaires. Si vous voulez, c'est toute notre panoplie d'expériences entre le macro et le micro. Ça, c'est la thèse de Adrien Dair, qui a passé dans le laboratoire de Yves Kuder à l'École normale, et que nous avons aussi mis dans notre exposition, qui est très simple. Vous prenez une rangée de cylindres parallèles, peuvent être en contact ou pas, et puis dessus, vous faites rouler une bille. Alors, si évidemment les cylindres ne sont pas très inclinés, la bille va rester fixe, coincée entre deux cylindres. Si vous augmentez beaucoup l'angle, elle va couler. Donc vous dites, j'ai un angle au-dessus, un angle. Mais il y a une situation intermédiaire. Là où la bille reste fixe, mais suffisamment près de l'angle limite, que si vous lui mettez une piche nette, l'énergie cinétique qu'elle gagne à chaque rebond fait qu'elle va continuer à couler. Donc en gros, ce qui va caractériser l'angle de Coulomb, ce n'est pas l'angle de Coulomb, c'est les angles de Coulomb. Et d'ailleurs, ça a remis beaucoup en cause un concept qui avait utilisé l'angle limite, qui était dû à un physicien décédé, très jeune, s'appelait Per Bach, qui s'appelait Self-Organized Criticality, donc criticalité auto-organisée, dont on a beaucoup parlé, et qui disait, finalement, un tas de sable, il s'organise jusqu'à un angle critique. Et quand il arrive à ce angle critique, si on essaye de le changer, il va faire des petites fluctuations pour garder la valeur de cet angle. Si on en remet un petit peu plus, il va éliminer les grains en plus. Si on n'aime pas, il va continuer. En fait, ça ne marche pas tellement parce que dans le cas d'un grain, il y a une zone hystérétique. Il y a un angle maximum, qui est l'angle maximum, vous pouvez garder le sable. Et puis, si vous êtes, je ne sais pas moi, sur la noire du machon, etc., où je me casse la gueule, ce qui fait que je ne fais plus de noir, vous tombez et vous déclenchez une avalanche. Et vous êtes entre les deux, entre l'angle maximum dans lequel l'avalanche va rester tout seul, puis quand je tombe, je crée une fluctuation, une macro-fluctuation, j'entends bien. Et du coup, je déclenche l'avalanche, et l'avalanche n'ira pas évidemment jusqu'à un angle nul, mais jusqu'à un angle minimum. Donc voilà une approche, si vous voulez, qui est tout à fait classique. Et là aussi, sur lequel on a beaucoup de travail, mais sans qu'on ait vraiment une approche méso. On a l'approche micro-macron, on y travaille. Il faudrait comprendre en gros comment ces liaisons, comment cette dilatance se fait, parce que c'est la dilatance qui permet que ça va s'écouler, comment les liaisons s'établissent en profondeur et pas simplement en ayant une couche qui bouge et une couche qui est fixe. Alors voilà du travail de Bruno Andreotti, en fait, qui a déclenché des avalanches du sommet. Et vous avez tous, je ne peux pas imaginer que vous ne l'ayez pas entendu, Bruno Andreotti et Stéphane Douady ont effectivement, à partir de ces expériences, on voit les deux angles, entendu, non seulement entendu, mais compris le chant des dunes, qui est dû à une vibration collective du sable qui tombe et qui effectivement émet un son dont on peut, suivant les grains, suivant les dunes, dont on peut varier la fréquence. Première description par Darwin dans son fameux voyage. C'était des dunes qu'il avait repérées au Chili. Donc, dynamique des avalanches, un très beau sujet. Et ce qui est amusant, c'est que, ce qui peut être amusant, c'est que ce qu'a montré Adrien Daher, c'est quand on se trouve entre ces deux angles et qu'on va vouloir déclencher, puisqu'on est dans une zone qui est une zone métastable, on va pouvoir déclencher effectivement des petites avalanches, il va mettre ici une petite perturbation, il va faire des avalanches locales qui vont s'écouler vers le bas. Et l'angle ici, c'est comme un angle de Mach, qui est fonction, en gros, de la distance à laquelle on est des deux frontières. Et quand on va augmenter l'angle, l'avalanche peut même remonter vers le haut. Donc c'est vraiment une très, très jolie situation, très belle étude. Et vous voyez que c'est une physique à 100 sous. Je connais la manip, puisqu'elle était à l'école normale quand j'y étais. Vous avez un grand plan incliné, vous débrouillez pour monter plus ou moins. Vous avez une première couche, généralement, qui va être une couche de grains qu'on va fixer, la condition limite. Puis après, vous mettez une deuxième d'épaisseur variable, parce que ces angles dépendent de l'épaisseur de la couche. Et puis, vous faites des petites perturbations et vous photographiez. C'est vraiment un superbe travail, et que ce soit l'expérience modèle, la Toy Experiment, qui a publié, d'ailleurs, ça doit faire un calcul de concours de grande école, je pense. Et je voudrais terminer en donnant un exemple d'un effort de scaling, de loi d'échelle, pris sur les dunes. Alors, les dunes, c'est un sujet... Quand j'étais à la rue d'Ulm, et on se posait la question, c'était... Moi, mon inspiration, elle a été tellement souvent due à Degène, mais là, c'est moi qui lui avais dit... je lui ai dit, écoute, il faut, sur nos affaires de granulaires, il faut qu'on sorte un petit peu de nos grains. Et puis, je lui ai dit, écoute, pourquoi on n'irait pas... J'avais été invité, d'ailleurs, à Tozer, pourquoi on n'irait pas essayer de faire de la dune, essayer de comprendre les dunes. Qu'est-ce qui se passe dans les dunes? Pourquoi, finalement... Vous avez une échelle locale de grains, d'ailleurs c'est finalement remarquable. Dans les dunes, les grains sont très très monodisperses et on comprend d'ailleurs pourquoi. Les grains sont rarement en dessous de 200 microns ou 250, rarement plus de 300 microns. Les plus petits, ils partent dans l'atmosphère, les gros, ils roulent. D'ailleurs, alors, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de comprendre les dunes? Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de comprendre tous les motifs aux différentes échelles? Et alors, il y a une action qui a été montée, qui se porte très bien, qui est extraordinairement dynamique, qui met en jeu du travail théorique, du travail expérimental, du travail sur le terrain, beaucoup de contacts actuellement avec la Mauritanie, où j'ai participé à des congrès. Donc, il y a vraiment un gros effort de travail, puisque c'est un labo et du travail de laboratoire. Voilà, donc, je vais l'imiter quand même, mais c'est le gros intérêt des transparents, je trouve. Alors, voilà le travail théorique, c'est de Hans Hermann, qui était directeur du labo où je suis retourné, que j'avais créé. Vous avez ici un calcul qui est un calcul dans lequel vous avez du sable qui arrive, évidemment dans un écoulement de vent turbulent, le tout modélisé. Ce sable bute sur une dune en formation, fait construire la dune, et puis de l'autre côté, les avalanches, qui est sur le flanc aval, font tomber le sable et font avancer la dune. Donc le mouvement est dû d'une part à l'apport par l'amont de ces grains qui sont dans ce qu'on appelle en saltation, c'est-à-dire qui sont en permanence en train de rebondir et de sauter et de buter contre la dune qui la construit et de descendre. Alors on sait théoriser ça, on sait théoriser que ça soit sur l'aspect turbulent. L'aspect turbulent lui-même est intéressant. Vous avez un écoulement turbulent, mais si vous le chargez beaucoup en grains, vous allez changer la nature de l'écoulement turbulent. Vous allez charger l'écoulement, donc il est différent. Donc une sorte de traitement autocohérent. Et puis, vous avez les avalanches derrière. Ce qui est remarquable dans les travaux faits par l'équipe de Hans Hermann, qui maintenant a du coup accepté un poste à mi-temps à Fortaleza, et qui est vraiment un très grand physicien numéricien. Pour moi, c'est un des meilleurs expérimentateurs numériciens que je connaisse autour de toute cette physique. Et c'est que ces modèles sont robustes. C'est un des points importants dans ce qu'on appelle les simulations, c'est de voir que si vous changez un petit peu les paramètres, en gros, vous ne changez pas beaucoup la physique. En tout cas, cette dune simulée, c'est les dunes qu'on voit, ce qu'on appelle les Barkhanes. Les Barkhanes, le vent arrive, l'harmattan arrive du nord-est du Sahara, va buter sur des dunes en construction, et puis va monter, va les construire, et puis elles vont partir vers l'avant. Et la question que nous posions, c'est comment peut-on connaître les échelles caractéristiques et comment peut-on connaître leur vitesse? Et là, il y a ce travail, mélange de théorie, de numérique, etc., sans peut-être nécessairement toutes les échelles. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elles y sont. On ne les a pas explicitées. C'est un travail. L'activité que nous avions démarrée, sur la suggestion de Eugène et moi-même, et auquel on a participé il y a 10 ans, elle est vraiment très, très en cours actuellement. Des pays comme la Chine, c'est un risque permanent, quotidien, de cette histoire de dunes qu'on a pu voir dans des films. Et alors, l'activité actuelle a consisté à dire, pour comprendre l'échelle, il ne faut pas uniquement se placer sur les dunes. Il faut regarder ce qui se passe à différentes échelles. Et André Otti en particulier, la petite équipe d'École Normale, André Otti maintenant a rejoint notre labo, a réalisé qu'on ne pouvait pas faire des dunes en soufflerie. Pourquoi il y a une taille limite? Il y a une taille limite de dunes. Si vous mettez dans une soufflerie à air un petit tas de sable, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire disparaître le tas de sable. Il faut au moins que le tas ait un mètre, il faut qu'il soit amorcé suffisamment. Par contre, ils ont montré, ça c'est des équipes en soufflerie hydro, qu'avec de l'eau, ça marche. C'est-à-dire que si on fait une dune à partir d'un petit tas dans une soufflerie, c'est-à-dire un écoulement d'eau turbulent, la dune se construit. Donc il y a des échelles. Et les échelles, ils ont trouvé qu'il y avait 3 échelles qui étaient intéressantes, et que je vous donne brutalement le résultat, et vous voyez que nous retrouvons les 3 échelles. Lambda représente en gros l'échelle caractéristique de ces dunes. Et ça, le L-drag, je vais vous le définir. Et en fait, l'idée, c'est de montrer qu'il y a des dunes qui sont des dunes centimétriques qui sont sous l'eau, qu'on fait dans une soufflerie à eau, des dunes qui ont une taille métrique, qui sont des dunes que l'on fait sur Terre, qu'on fait dans le désert, et puis des dunes extrapolées qui seraient hectométriques ou kilométriques que l'on a sur Mars. Donc comment essayer de comprendre et quels paramètres qui est ici? Comment essayer de faire du vrai scaling, hein, puisqu'on est en train de regarder ce balai dans beaucoup d'échelles, avec évidemment pas mal de points d'interrogation, ces résultats sur Mars. Effectivement, on les déduit, il faut connaître des choses sur la taille des grains, et il y a beaucoup d'hypothèses, et évidemment, Fabienne, c'est des genres de contributions qui sont très importantes pour nous. Alors voilà le modèle d'où il est. Si vous prenez une butte, donc je vous donne, il se trouve que c'est Claudin qui est aussi de notre laboratoire qui travaille là-dessus. Si vous prenez une butte et que vous faites arriver du vent sur la butte, le vent qui s'approche dans le plan montant va cisailler. Le cisaillement, c'est-à-dire le gradient de vitesse du vent, est plus important dans cette région-là. Ici, il va être moins important, vous allez cacher l'aval, le vent va être écranté. Donc vous avez cisaillement. Et qu'est-ce que fait le cisaillement? Il arrache des grains. Il arrache des grains, et plus le cisaillement est important, plus les grains sont arrachés. Eh bien, ces grains vont être arrachés, mais ils vont être arrachés continuellement. Et cette longueur, c'est en gros la longueur qui est introduite. Je vous laisse comme un modèle actuel. C'est des choses sur lesquelles je ne suis pas sûr que ça soit publié ou c'est en voie. Cette échelle est encore une échelle métrique. On avait une échelle qui était une échelle toute petite, qui était la taille d'un grain, 200 microns. On avait la taille de la dune et il y avait besoin d'échelles un peu intermédiaires. Et l'échelle intermédiaire qui est construite, qui est quand même beaucoup plus proche de la taille de la dune que de la taille du grain, c'est cette distance, en quelque sorte, qu'il faut. C'est l'équivalent pour les marins du fetch, à mon avis. C'est la longueur qu'il faut pour que le vent donne son effet sur les vagues. Là, c'est la longueur qu'il faut pour qu'on obtienne un flux maximum. Et dans le modèle qu'ils obtiennent, la longueur qui va être caractéristique de leur problème, la longueur qui va être caractéristique de la taille des dunes, va être en quelque sorte cette longueur de saturation. Mais cette longueur de saturation, ils savent l'écrire. Ils peuvent le voir dans des expériences comme, en gros, D, la taille des particules, il y a un facteur numérique, bien sûr, multiplié par quelque chose qui est la masse volumique du solide, la masse volumique des grains, 1, 2, 3, soit masse volumique du fluide. Et alors, ce facteur est un facteur important. C'est lui qui explique pourquoi on ne peut pas faire des dunes dans l'air. Parce que, finalement, la taille, rho S sur rho F, si vous faites du sable et un vent d'air, ça vous fait un facteur 1000. que les longueurs nécessaires vont être 1000 fois plus grandes que si vous mettez un solide et un liquide, dans lequel le rapport est de l'ordre de 1. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour vous montrer que pour comprendre pourquoi on pouvait faire des dunes dans l'eau, construire dans l'eau des dunes et pas dans l'air, c'est que le contraste entre la masse volumique des grains et la masse volumique du fluide qui va transporter les grains est un facteur. Alors je voulais terminer par ça parce que j'avais vu qu'effectivement l'exposé, les deux exposés avant moi allaient parler l'un de planétologie ou quelque chose et puis l'autre, Bernadette, des choses qui me sont chères de ces quatre échelles. J'espère que je vous aurai, ça va encore une minute ? Ouais, presque convaincu que les grains, la mécanique des milieux granulaires, la physique des milieux, la physico-chimie des milieux granulaires, parce qu'il y a des interactions chimiques dont je n'ai pas parlé, est ainsi un domaine extrêmement ouvert, extrêmement important d'un point de vue application pratique. 80% de la surface de la Terre est couverte de grains, hein, et qu'on peut trouver des applications un petit peu partout. Voilà, merci.